7-9 de Matin Première.
Il est 7h46, bonjour Thomas Guédisseux.
Bonjour à toutes et tous.
Le président du Parti Socialiste est l'invité de la matinale.
C'est Paul Magnette qui, avec une petite phrase, a semé un tollé hier. On va essayer de décortiquer justement ce qu'il a voulu dire, essayer de comprendre et aussi de voir pourquoi ça a fait tant réagir. On rappelle cette phrase dans un magazine flamand, Humo, donc destiné à un public flamand. Après la sortie du nucléaire, j'aimerais envisager la sortie de l'e-commerce, un pays sans e-commerce. Comment cela est possible? On va essayer de comprendre pourquoi.
Bonjour Paul Magnette.
Bonjour.
Vous avez un compte Amazon?
Oui, j'ai un compte Amazon et il m'arrive d'utiliser, de faire des commandes en ligne. Je vis avec mon temps, je vous rassure, mais je pense néanmoins que c'est un débat qui est un débat intéressant. J'espérais avec cette petite phrase susciter un débat. Je dois vous dire que je ne suis pas déçu de ce point de vue.
C'est du second degré politique, comment on doit comprendre?
Mais c'était une provocation qui répond à une autre provocation qu'on entend éternellement dans le débat public flamand. On l'entend, c'est vrai, moins du côté francophone. Mais en Flandre, ils regardent beaucoup ce qui se passe aux Pays-Bas. Et ils voient qu'aux Pays-Bas se développent des grands hangars d'e-commerce avec des conditions de travail épouvantables, on y reviendra. Et ça fait des années qu'on nous dit « Regardez, on subit la concurrence de l'Allemagne, des Pays-Bas, on pourrait ajouter de la France d'ailleurs, et donc il faut déréguler, déréguler, déréguler. » On entend ça éternellement. Et là encore, et donc je subis cet argument constant qui consiste à dire « Il faut réduire les droits des travailleurs, il faut réduire les protections, il faut assouplir, flexibiliser, il faut comprimer les salaires. » Pour moi, c'est une provocation. Et donc je réponds à une provocation par une autre provocation en disant eh bien, peut-être qu'on pourrait se passer de l'e-commerce. Évidemment que c'est du second degré. Évidemment qu'on ne va pas supprimer l'e-commerce. Évidemment que les petits commerçants qui ont des articles en ligne et qui les vendent à leurs clients habituels ou à d'autres, ça ne pose absolument aucun problème. Mais par contre, le grand e-commerce, qui est le commerce en ligne, qui est en expansion extrêmement rapide, il pose des tas de questions. Il pose des questions environnementales, il pose des questions sociales, il pose des questions de santé. Et je suis heureux de voir que le débat est enfin lancé.
Votre participation dans les différents gouvernements a parfois accompagné, appuyé le développement de cet e-commerce. On pense encore et toujours à Alibaba à Liège, qui a été quand même applaudi, salué par les Liégeois, mais pas seulement, par le gouvernement wallon, dirigé par un socialiste. Comment vous expliquez ça alors?
Ça n'a jamais été ma tasse de thé, mais bon, voilà, ça fait partie du monde dans lequel on vit. Je vous le répète, je vis avec mon temps, j'ai aussi un smartphone, j'ai des comptes Facebook, Instagram, je suis même sur
pas
TikTok
de paradoxe là-dedans.
Depuis peu de temps, mais ça n'empêche pas.
C'est pas l'emploi du futur, quoi. C'est non, pas l'écosystème qui s'imposera à nous.
Je crois qu'il faut faire attention à ce qu'on appelle les développements sans progrès. Il y a plein de développements dans notre société, mais qui ne sont pas forcément porteurs de progrès. Et ce n'est pas parce que ces développements sont là qu'on doit les accepter sans aucune vigilance critique. Quand vous allez faire vos courses et que vous scannez vous-même les articles et que vous n'avez plus l'occasion d'échanger un regard, quelques mots avec une caissière, quand vous allez à la banque et que vous faites vos opérations vous-même sur un compteur automatique sans plus jamais croiser un employé, quand pour acheter un livre, vous vous faites recommander par un algorithme plutôt que par un libraire qui a lu le livre et qui vous en parle avec passion, quand vous allez réserver un voyage en ligne plutôt que de discuter avec un agent dans une agence de
ça,
voyage,
c'est la litanie.
Ça déshumanise.
Mais il y a une réalité.
Non, monsieur Guédisseux, c'est ça aussi la politique. Ça déshumanise la société, ça ne crée pas d'emplois. Et dans le cas du commerce en ligne massif, hein, je le répète, je vais le dire 100 fois s'il faut le dire 100 fois, mais on ne vise pas les petits commerçants. Les petits commerçants, ils ont toujours fait ça. Quand vous regardez les vieux toutes boîtes, vous voyez qu'il y a des petits commerçants qui disaient voilà, je vends tel et tel produit miracle et on pouvait l'acheter en téléphonant, on se le faisait livrer par la poste. Ça existe depuis plus d'un siècle, ce type de pratique. Donc ça, c'est pas le problème. Par contre, le grand commerce en ligne, qui a triplé en 10 ans, hein, depuis 10 ans, le volume du grand commerce en ligne, il a triplé. Si on y prend garde, il triplera encore dans les 10 prochaines années. C'est quand même une concurrence terrible pour notre commerce local. Un achat sur deux est fait à l'étranger, hein, et pas fait ici en Belgique. C'est aussi des conditions de travail qui sont catastrophiques et il faut un débat. On se compris à Alibaba, hein, le débat a eu lieu à Alibaba et les syndicats se sont très bien battus pour imposer justement de bonnes conditions de travail. Il faut un débat sur les salaires dans ce secteur et il faut aussi un débat sur la question environnementale. On ne peut pas crier à longueur d'année que le grand défi de notre époque c'est la transition climatique et continuer à faire circuler des biens et des produits dans le monde entier par avion avec des quantités monumentales d'emballage. Vous savez qu'aux États-Unis,
il y a la théorie, Paul Magnette.
Aux États-Unis,
il y a les vœux et puis il y a la réalité. Non, parce qu'on va juste essayer de faire réagir ça quand même, provoquer un tollé politique. Vous êtes président de parti aussi, aux commandes de différents gouvernements, et vous avez l'emploi comme compétence. Ça a fait réagir politiquement. On va écouter le président du MR, Georges-Louis Boucher.
Le Parti socialiste s'enferme dans du conservatisme et revient au 19e siècle. Alors c'était peut-être un siècle prospère pour le PS, mais c'était pas un siècle où le bien-être était aussi élevé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart des petits commerces, justement, arrivent à se redéployer grâce à Internet, grâce à l'e-commerce. Aujourd'hui, l'e-commerce en Belgique, c'est plus de 11 milliards d'euros et c'est 11 000 emplois directs.
Après la théorie sur le rêve politique, il y a la réalité. Concrètement, comment vous allez accompagner alors du coup cette réalité, ces travailleurs-là?
Mais d'abord, quand on dit que c'est le retour au 19e siècle, à nouveau, c'est des caricatures sans nom. Ce qui serait le retour au 19e siècle, c'est justement de dégrader les conditions de travail dans un secteur comme celui-là. C'est évidemment pas les petits commerçants qui sont en cause, qui font un peu d'e-commerce, et ils en font assez peu d'ailleurs dans notre pays. Mais allez discuter avec les libraires, avec les marchands de vêtements, avec les marchands d'articles ménagers, etc. Ils vous diront tous qu'ils subissent violemment cette concurrence, parce que c'est une concurrence qui est déloyale.
Alors qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on fait en tant qu'autorité politique?
Il faut, plutôt que de déréguler, comme le disent certains, c'est l'éternelle course vers le bas. On nous dit, regardez, aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, les conditions de travail sont moins bonnes, les critères environnementaux sont plus souples, et donc ils arrivent à développer ce secteur, donc on doit faire la même chose et on doit réduire nos normes. Moi, je pense l'inverse. Je crois qu'on doit, au contraire, renforcer les droits des travailleurs, renforcer les protections, renforcer les critères environnementaux. Est-ce qu'on doit continuer à sacrifier des hectares et des hectares de terres agricoles pour y construire de grands hangars? C'est des questions qui doivent aussi être...
Et de manière très concrète, politiquement, il y a un débat qui se pose actuellement au gouvernement sur ce qu'on appelle le travail de nuit. Alors, il est scindé,
il y a plus de débat.
8h à minuit, et puis il y a de minuit à 5h. La question, c'est comment on défiscalise ces heures-là? Vous dites qu'il n'y a plus de débat entre minuit et 5h, ça veut dire qu'on ne touchera pas à ces heures-là?
Non, il n'y a plus de débat, le débat a eu lieu. Il a eu lieu au moment du conclave budgétaire au mois d'octobre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, c'est l'une des raisons pour lesquelles les discussions ont été si difficiles et ont duré toute la nuit. C'était sur ce point-là en particulier. Nous avons dit, nous ne voulons pas
coucher
qu'on dérégule le travail de nuit. Et donc, ça, c'est acquis.
De 20h à minuit, par contre, on pourra encore bouger.
De 20h à minuit, voilà, pour le travail qui se fait en soirée et dans ces heures tardives, mais qui ne sont pas le travail de nuit stricto sensu, là, il y a un débat qui est ouvert et il y a une consultation qui a lieu avec les partenaires sociaux. Mais pour le reste, ce sur quoi travaille Pierre-Yves Dermaïn, c'est une modernisation du droit du travail qui vise à tenir compte de l'évolution du pratique. C'est le droit à la déconnexion pour les employés, c'est le droit à la formation.
C'est les 4 jours de travail par semaine?
C'est la liberté pour les travailleurs qui le souhaitent, et uniquement qui le souhaitent, de pouvoir mieux organiser leur temps de travail. Si vous êtes un jeune papa ou une jeune maman divorcée, que vous souhaitez pouvoir travailler plus d'heures une semaine pour en travailler moins l'autre semaine et avoir plus de temps pour vous occuper de vos enfants. S'il y a un accord entre l'employé et l'employeur, pourquoi pas? Donc c'est une modernisation qui vise à tenir compte de l'évolution de la vie de la société, mais en protégeant les travailleurs. Il y a tout un débat, et c'est là que c'est difficile. En fait, le vrai endroit où c'est difficile, c'est sur l'économie de plateforme. C'est sur les livreurs, c'est sur une partie de la logistique qui est aussi en lien avec ce commerce en ligne, où certains disent, avec Uber, enfin tous ces débats-là qui ont déjà eu lieu à Bruxelles, où certains disent, là aussi, il faut déréguler. Nous disons, au contraire, il faut renforcer les droits de ces travailleurs. Il faut leur donner une vraie protection sociale. Il faut que demain, ils aient une vraie pension.
C'est l'équilibre entre ces 80% du taux d'emploi à atteindre et une meilleure flexibilité ou une plus grande flexibilité dans le milieu du travail.
Monsieur Gadisson,
pour que la Belgique atteigne cet objectif, il faudra ça.
Je ne crois pas qu'on atteint le taux d'emploi en sanctionnant les gens. Je ne crois pas qu'on atteint le taux d'emploi avec une flexibilité qui crée davantage de problèmes que de solutions. Le vrai problème de la Belgique aujourd'hui, c'est de moins en moins le taux de chômage qui est relativement bas. Vous voyez que le nombre de chômeurs a encore beaucoup diminué en Wallonie et à Bruxelles. Le vrai problème aujourd'hui, ce sont les maladies de longue durée qui ont explosé sous le gouvernement Michel. Et ces maladies de longue durée, elles sont le reflet d'un débat qu'on ne tient plus aujourd'hui, d'un débat sur les conditions de travail. Il y a énormément d'emplois qui sont des emplois durs, avec des horaires très difficiles à tenir, avec des conditions de travail physiques très difficiles à tenir. Le travail de nuit, c'est aussi un débat. Vous savez qu'il n'y a pas d'études en Belgique sur les conséquences du travail de nuit sur la santé. Alors que dans tous les autres pays, on montre que ça a des conséquences très nocives en matière de troubles du sommeil, de troubles alimentaires, qu'il y a plus d'accidents de travail, etc. C'est aussi un débat qu'il faut pouvoir mener. La qualité de l'emploi, c'est fondamental. Si on veut que...
Et on n'en doute pas, le débat
jamais quelqu'un qui a un bon boulot et qui a de bonnes conditions de travail, de bonnes rémunérations, il reste au travail. Il est heureux de travailler, de pouvoir s'épanouir et d'avoir une vie sociale. sociale.
Le travail de nuit,
par contre, si le travail est dur et pénible.
On en connaît quelque chose ici dans Matin Première.
Oui, en faisant de la politique, vous savez, le travail de nuit, on connaît ça aussi. Ça nous arrive très souvent.
Une autre de vos déclarations avait suscité beaucoup de réactions. Paul Magnette, on va avancer dans l'interview. Vous aviez plaidé pour l'obligation vaccinale pour tous en Belgique, en tout cas pour tous les adultes. On sent que tous les partis semblent enterrer l'idée. Elle semble écartée après quelques semaines de débat à la Chambre. Ça aussi, c'était de l'incantation politique ou de la provocation.
Je pense que c'est un débat de fond qui est un débat important. Mais vous avez raison, c'est plus un débat actuel. Voilà, il ne se pose plus aujourd'hui, c'est devenu un débat théorique.
Donc vous dites ce matin,
on l'enterre pour le moment, en tout cas. Enfin, on l'enterre. Non, c'est important que le débat ait lieu. Qu'on se pose la question, si un jour reviennent d'autres pandémies, si, on ne sait jamais, un nouveau variant du Covid venait et qui était extrêmement virulent, extrêmement dangereux, peut-être qu'il faudrait revenir à cette question de l'obligation vaccinale. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne se pose plus, parce que, avec, de même que je pense que très rapidement, la question du CST ne va plus se poser. Parce qu'avec Omicron, tout le monde l'a vu, qui est d'une nature différente, c'est-à-dire qu'il y a un taux de contamination très élevé, mais un taux très faible de maladies graves et donc d'hospitalisation, ça ne justifie plus la vaccination obligatoire.
Petite pause, je le reconnais. Il y a un comité de concertation vendredi, passage probable d'un code rouge vers un code orange, où il y aura toujours ce Covid safety kit. Ça veut dire quoi? Rapidement, il va être supprimé. Concrètement, dans les prochains jours, il va encore exister.
Le plus rapidement possible, à nouveau, je ne veux pas...
Pourquoi on garde un outil qui n'est plus utile des jours de trop?
Il garde une certaine utilité, notamment pour les déplacements à l'étranger, par exemple. Mais est-ce que ça reste vraiment utile pour certaines activités, type horeca, culture, etc.? C'est un débat qui doit avoir lieu. Moi, je pense qu'effectivement, avec Omicron et avec le fait que la pression de la maladie sur notre système de soins de santé se réduit, ça se justifie moins. Il ne faut jamais oublier la raison d'être des décisions que nous avons prises. C'est des décisions qui étaient restrictives des libertés, très dures à porter et qui n'étaient justifiées que par la santé publique et le fait qu'il fallait que notre système
donc,
de soins tienne.
D'où la question les enlever de manière très rapide si à un moment donné on les estime
qu'elles sont plus nécessaires. De manière très rapide. Mais je ne vais pas vous donner une date, je sais que vous aimeriez beaucoup.
Non, mais c'est pour essayer de comprendre quand même les intentions politiques derrière. On parle d'un CST avec les choix possibles maintenant, plus du pass vaccinal. Ça, c'est aussi enterré.
Définitivement enterré. Je pense que j'ai toujours dit que je pensais que c'était une très mauvaise idée.
Débat qui sont arrivés trop tard.
De dire vous êtes libre de vous vacciner ou pas, mais si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez plus rien faire. Donc ça, il n'y a plus personne qui l'a défendu dans les auditions qui ont eu lieu au Parlement. Ça montre que ce débat, il était un débat utile.
Ce débat qui était lié à la question de l'obligation vaccinale pour le personnel soignant, selon vous, vous vouliez lier si on oblige le personnel soignant, on doit obliger toute la population, ça aussi, alors du coup on reporte le personnel soignant
Oui, il y a eu une fuite dans la presse, donc vous l'avez vu, effectivement il y a une décision du gouvernement de reporter l'application de cette obligation, et de tenir compte de l'évolution de la situation, simplement de l'évolution de la pandémie et du débat général qui a lieu au Parlement.
Autre grand débat qui anime la sphère politique, la question de l'énergie avec différentes annonces pour faire baisser la facture. Il s'avère que cette baisse de TVA pourrait décaler l'indexation de nos salaires. Alors on sait qu'il y aura un premier pivot rapidement, là, dans les prochaines semaines. Il y aura encore une indexation, mais on parle d'une deuxième indexation possible près de l'été. Et ça pourrait décaler à cause de la baisse de TVA. Donc ce qu'on donne d'une main, on retire de l'autre, Paul
Magnette. C'est un des inconvénients de ce mécanisme. Moi, si j'ai plaidé pour des réductions sur facture, c'est parce que les réductions sur facture, ça n'affecte pas effectivement le pouvoir d'achat et que ça permet d'être immédiat et ça peut être ciblé. C'est-à-dire qu'on peut cibler, comme on le fait avec le tarif social. Il faut quand même rappeler qu'avec le tarif social, on aide une famille sur cinq qui a une facture d'électricité de 50% moins élevée, 75% moins élevée sur le gaz. Mais il y a aussi ces classes moyennes qui sont au-dessus, qui eux ont besoin aussi d'un soutien.
Donc vous reconnaissez qu'il y a un risque
Fait un mixte entre baisse
au final
Il y a des estimations différentes. J'ai lu des estimations différentes. Certains disent que ça reporte effectivement le passage de l'indice pivot. D'autres disent que ça ne le reporte pas tant que ça. Ça le reporte de toute façon, mais la question c'est de combien de temps et est-ce que ça a un impact au total sur l'aide. En tout cas, je pense que l'aide qui a été apportée ici était indispensable, mais elle n'est pas suffisante. Il faudra revenir. C'est d'ailleurs prévu. Il est prévu que le gouvernement, au mois de mars, revienne sur le débat de la question de l'énergie. Là, on a pris une mesure d'urgence, mais il faudra d'autres mesures structurelles, parce que malheureusement, les prix de l'énergie ne vont pas baisser de sitôt.
Voilà, nouveau débat en vue sur l'énergie. Interview à revoir et réécouter en ligne. Merci Paul Magnette.
Merci à vous.
Thomas Gadisseux.
C'est pas une interview, c'est ça.
Vous écoutez La Première, il est 8h.